Nous allons reprendre si vous êtes prêts et assis. Et c'est pour accueillir Ségolène Le Menn, qui est professeure à l'Université de Paris-Ouest Nanterre La Défense, professeure d'histoire de l'art du XIXe siècle. Et si je l'ai invitée, c'est pour nous parler des caricatures, parce que vous vous êtes rendu compte que je vous avais montré déjà un certain nombre de caricatures, de Daumier, de Traviès, je crois que je n'en ai pas encore montré de Gavarni, mais ça viendra. Le chiffonnier est omniprésent dans la littérature du milieu du XIXe siècle. Il est peut-être encore plus massivement présent dans la caricature, dans le dessin, dans la lithographie. Et on en a eu déjà quelques exemples. Je suis content que vous ayez choisi celui-là, parce que c'est celui que j'ai montré au premier cours comme symbole du cours, parce qu'à mon avis, il est le plus charmant de tous les chiffonniers de Daumier. Celui-ci, le plus simplifié, le plus symbolique, avec cette borne, son croc, sa hotte et le petit tas d'ordures au pied de la borne. Donc, vous êtes spécialiste d'un certain nombre de peintres du XIXe siècle. Vous avez fait un certain nombre d'expositions qui ont eu trait déjà à cette figure du chiffonnier et des autres petits métiers parisiens, notamment à Orsay, il y a quelques années, une très belle exposition avec Luce Abélès. Et c'est donc naturellement de la caricature du chiffonnier que vous allez nous parler sous le titre « Daumier, Gavarni et les autres ».
Merci beaucoup de m'avoir invité à participer à ce cours que j'ai entendu et qui me semble vraiment tout à fait passionnant, parce que par les liens notamment qu'il tisse continuellement entre le texte et l'image, et la littérature et les arts, et par la réflexion qu'il a déjà commencé à introduire autour de Daumier et des autres, enfin du milieu dont il a fait partie. Je vais donc, à votre demande, parler des caricatures du chiffonnier. J'ai choisi comme titre, par clin d'œil au titre de votre cours, Daumier, Gavarni et les autres. Et en effet, comme vous l'avez rappelé, il y a de longues années, j'avais pu préparer avec Luce Abélès, et je voudrais saluer sa mémoire en effet, une exposition dans laquelle nous avions introduit une petite section sur le chiffonnier au musée d'Orsay. C'était une exposition sur les Français peints par eux-mêmes. Et j'ai un petit peu chiffonné moi-même à partir de ma réflexion et des notes que j'avais pu prendre, en les complétant bien évidemment, pour préparer le séminaire d'aujourd'hui. Vous avez expliqué que la thématique du chiffonnier s'était développée en un réseau de textes, d'images et souvent de supports, de papiers, associant le texte et l'image tout au long du XIXe siècle. Et en effet, cette figure du chiffonnier est apparue comme une figure qui me semble en effet tout à fait intéressante aussi pour l'histoire de l'art, en y réfléchissant, non seulement parce qu'elle atteint assez rapidement une dimension allégorique, notamment dans la peinture de Manet, mais également parce que par tous ces jeux, toute cette iconographie qui parcourt le siècle, et aussi par ce double sens que vous avez mis en évidence, on pourrait presque dire que l'image du chiffonnier, c'est une image frontière, en reprenant une notion qui vient de l'anthropologie. C'est d'un côté ce qui a trait au chiffon, et de l'autre côté ce qui a trait au chiffonnier et au recyclage. Donc d'un côté, les bas-fonds de la société, de l'autre côté, au moins du côté des représentations, et de l'autre côté, la parisienne, la mode. C'est cette rencontre que finalement les deux noms de Daumier et Gavarni vont signifier. Au cours de cet exposé, je vais essayer de développer justement, dans une première partie, toute une réflexion autour du monde du papier et de la chiffonnerie comme expression du monde du papier, de ce matériau qui devient très très important dans le premier 19e siècle, et qui se multiplie, qui donne lieu à toutes sortes de nouveaux supports d'édition, associant texte et images. Et puis, dans un second temps, je reviendrai un petit peu à Baudelaire et à sa réflexion sur la caricature, notamment à sa réflexion sur Daumier. Et dans un troisième temps, j'évoquerai le fait qu'à travers la figure du chiffonnier, on a peut-être une sorte d'allégorie d'un regard. Donc, je commencerai en évoquant cette question, d'abord en rappelant que la notion de caricature, puisqu'on me demande de parler de caricature, est liée dès l'origine à l'invention d'une part du portrait charge dans le milieu des Caraches à Rome au XVIIe siècle et d'autre part à la mise en évidence de séries d'estampes qui sont consacrées aux cris de la ville. Et donc la figure, les séries de métiers vont se développer depuis cette époque-là à travers toute l'Europe. J'en ai pris un exemple de l'époque révolutionnaire dans les fonds du Louvre. Vous voyez d'un côté un chiffonnier et puis de l'autre côté un officier de la Première République. Et si l'on cherche du côté du chiffon de mode, en quelque sorte, il y a une figure qui intervient dans cette galerie de portraits, de types, de petits métiers. C'est la figure de la bouquetière qui apparaît dès le XVIIIe siècle. J'ai cherché un exemple qui a été repris par Ernest Mindron dans son ouvrage Essentiel, c'est un classique de l'histoire de l'affichomanie, Les affiches illustrées en 1886. Il l'introduit évidemment dans le développement qu'il consacre à la problématique de l'affichage. Et nous avons ici une sorte de convergence de nombreux thèmes qui ont déjà été évoqués. Bien sûr, la borne, le pavage de la rue, l'espace de la rue et l'espace urbain de la rue qui est tapissé d'affiches, d'avis. Donc cette espèce de mosaïque d'images fait que l'univers des petits métiers, dans son versant féminin et gracieux, qui est celui de la bouquetière, ou dans son versant plus mélancolique et plus inquiétant parfois, qui est celui du chiffonnier, sont associés à tout un monde d'images. Qu'il s'agisse de la question de la série, puisque ça s'est développé sous la forme de série, d'estampes, ou alors, selon la modalité de ces images affichées sur les murs de la ville. Et évidemment, le chiffonnier se caractérise par sa haute, par ses attributs. Sa haute, son croc, vous en avez parlé dans votre cours. Au Mucem, il existe un certain nombre de crochets de crocs, de chiffonniers, ils appellent ça des crochets dans leur catalogue. Mais il existe aussi des hottes de chiffonniers. Et j'ai trouvé que c'était intéressant de montrer cet outil tel qu'il existe, très acéré avec sa double pointe, sa silhouette incurvée aussi, et qui est bien sûr prolongée d'un bâton et qui sera tenu à la main par le chiffonnier. Alors j'en viens à ce qui constituera la première partie de ma présentation, la question du chiffonnier et du monde du papier, de cet univers du papier qui est un univers qui fait appel aussi bien au texte qu'à l'image, avec des continuels allers-retours de l'un à l'autre. Et en premier lieu, je me suis interrogée sur la présence du mot chiffonnier dans le dépôt légal des estampes, qui prouve une assez importante présence d'occurrences. J'ai trouvé 42 occurrences depuis 1811 jusqu'à 1879. Et parmi ces occurrences, on trouve un certain nombre d'estampes bien connues, d'autres beaucoup moins, et parfois des estampes anonymes, d'autres qui sont publiées en province. Donc, tout un vaste domaine d'images qui sont en général déposées en série, qui font partie donc de ces séries de cris de la ville, de petits métiers, et qui sont catégorisées par le dépôt légal, qui donne toujours des indications de catégorie, soit comme caricature, soit comme genre, soit comme costume. Il me semble que cette triple indication est intéressante. C'est-à-dire qu'on a beau avoir l'impression d'une évocation d'un univers de petits métiers, on glisse très vite du côté de la caricature, on est tout proche de la scène de genre, et on est bien sûr du côté des costumes devenant coutumes. Alors, j'ai simplement pris cet exemple parce que c'est amusant, c'est le seul cas où l'employé du dépôt légal s'est permis une description de vignette et il identifie, à mon avis, ce n'est pas du tout une chiffonnière d'ailleurs, mais la vignette de la physiologie de la femme, il l'identifie à une chiffonnière. Je voudrais aussi revenir un petit peu sur une évocation des formats qui caractérisent ces représentations qui vont parcourir le premier 19e siècle. Le premier format, le plus ancien sans doute, celui qui fait partie de ces séries d'estampes, c'est celui de la planche isolée, mais parfois éditée en série successivement, et qui peut donner lieu, évidemment, à des caricatures, puisque je vais parler de caricatures. J'ai trouvé cet exemple dans la collection de Vinck, qui est une caricature de l'époque révolutionnaire, où un homme du tiers-état est en train de dire à un ecclésiastique transformé en chiffonnier que ce n'est pas la peine d'aller chercher des bénéfices, puisque de toute façon la révolution a changé tout ça. Donc c'est une transposition de cette thématique du chiffonnier dans une planche qui est devenue une scène caricaturale et tout le monde comprend les connotations parce qu'on est familier déjà de cette scène telle qu'elle est représentée par la gravure. Alors avec tous les petits détails que vous pouvez voir, le pot de chambre qui est renversé, etc. Une autre planche intéressante, première caricature, c'est le grand chiffonnier critique du salon de 1806. C'est une eau-forte qui est une occurrence, peut-être même la première occurrence, de quelque chose qui nous oriente du côté de ce qui deviendra les salons caricaturaux. C'est associée à un texte assez long, d'un pamphlet, autour du salon de 1806, et vous voyez que dans cette scène, la thématique du chiffonnier est associée à quelque chose qui est tout à fait du registre de la caricature révolutionnaire et que reprendra Granville, c'est-à-dire le bestiaire anthropomorphe. Une autre planche caricaturale, c'est dont Antoine Compagnon a parlé d'ailleurs dans un article, c'est ce La Violette chiffonnier cherchant sa couronne dans les ordures des faubourgs de Paris, qui a été déposé au dépôt des estampes le 16 septembre 1815 et qui est en fait une caricature politique. Alors, cette tradition des planches isolées qui peuvent avoir une dimension caricaturale va être reprise dans la presse politique, mais aussi avec des thèmes sociaux dès la monarchie de Juillet, dès la fin de la Restauration et ensuite sous la monarchie de Juillet. Et j'ai été intéressée, puisqu'on n'en avait pas du tout parlé dans le cours encore, par une série de Pigalle qui s'appelle « Le miroir de Paris ». J'ai apporté d'ailleurs les originaux. C'est pour vous donner, parce que quand on travaille sur le papier, il faut voir les originaux. Et même si vous êtes très loin, vous voyez le format du Charivari. Le principe, c'est qu'il y a 4 pages. C'est un journal quotidien qui a une lithographie chaque jour. Et en page 3, une caricature. Alors, ce miroir de Paris reprend cette tradition des cris de la ville, des tableaux de Paris mis en image. Et on y trouve, j'ai choisi cet exemple-là parce qu'on retrouve des thèmes qui ont été abordés dans le cours, la question du trottoir notamment, avec la borne au coin du trottoir, le petit marchand, le petit livreur qui se précipite, le mouvement, la vitesse, le déséquilibre des corps sont évoqués. Si vous regardiez devant vous, animal, c'est un accident qui a failli se produire, c'est ça le gag finalement de cette image. Et dans plusieurs des planches de cette série, Le miroir de Paris, on retrouve la thématique du chiffonnier. Par exemple, dans la planche 3, Monsieur de la Rocambole, mon honorable ami. C'est une qui est publiée donc le 9 septembre 1833 et qui ne donne pas lieu à un commentaire autre que celui-ci. La scène populaire qu'a reproduite M. Pigalle s'explique d'elle-même. Un gargotier présente l'un à l'autre deux de ses artistes à qui M. Viennet a dédié une de ses épîtres, laquelle est si bien parvenue à son adresse. Nous nous bornerons à faire remarquer à nos lecteurs tout ce qu'il y a de vrai dans la physionomie et la pose de ces personnages. Donc c'est le petit commentaire en page 2, colonne 4, tout au bas de la page, de la rubrique dessin, qui accompagne cette planche et qui nous la présente à la fois comme l'évocation ironique d'une scène vraie, vraie par la physionomie et par la pose. Donc une intention réaliste d'un côté, mais d'un autre côté aussi une intention politique qui est introduite par le commentaire à travers l'allusion à Viennet. Dans la caricature, on retrouvera ce thème du chiffonnier et vous avez parlé à plusieurs reprises du rapport entre le chiffonnier et le roi. Les extrêmes se touchent, c'est un grand thème de la caricature. Le principe même de la caricature, c'est de rapprocher des oppositions. C'est toujours fondé sur un système d'opposition, donc composer des planches avec des figures antithétiques, c'est un des ressorts de la caricature. Et évidemment, la poignée de main entre le roi Louis-Philippe qu'on voit de dos avec son toupet, son corps en poire, et de face, au contraire, le chiffonnier, c'est une œuvre d'ailleurs assez ambiguë dans son interprétation, parce que c'est faire planer un peu une incertitude sur la position de Louis-Philippe face à ces rôdeurs des rues. Et vous savez que par la suite, d'ailleurs, Daumier va associer Louis-Philippe a ce personnage un peu trouble qui est Robert Macaire. Il y a déjà quelque chose de cette idée-là, d'associer Louis-Philippe aux rôdeurs des rues. Je voulais dire ratapoil pour Napoléon III par la suite, et Robert Macaire d'abord, l'industriel, et ensuite ratapoil. Une deuxième modalité après la planche caricaturale, c'est la vignette. Et c'est évidemment ce dont il s'est agi lors de la séance précédente, lors de l'intervention de Valérie Stiénon. Donc je ne reviens pas trop sur ces vignettes de physiologie, qui sont en général des vignettes fragmentaires, des coups d'œil, des clins d'œil. Et vous en avez une idée dans cette étude de chiffonnier de Gustave Doré, qui est une lithographie avec ce que l'on appelle des remarques au pourtour, où l'on voit des détails, des physionomies, des postures, toute une recherche autour de croquis, autour de cette thématique du chiffonnier qui, elle, est présentée au centre de la page, suivant cette modalité de la vignette, elle, lithographique, qui apparaît sans cadre, qui flotte sur le blanc de la page, et comme une image un peu fantasmagorique, l'ambiance fantasmagorique étant renforcée par la présence de la lanterne et l'effet de clair-obscur. Cette vignette, c'est ce qui va caractériser l'édition illustrée romantique du début des années 1830, avec ce qu'on a appelé les vignettes de titre. Et dès ce livre très important qui s'appelle Paris ou le livre des 101, qui à la suite du tableau de Paris de Mercier et de l'Ermite de la Chaussée d'Antin de Étienne Jouy, va vraiment prendre le relais. C'est un livre collectif à plusieurs voix, à plusieurs mains, qui aborde véritablement un tableau de Paris par fragments et par une multitude de thèmes, en se situant délibérément dans la tradition du chiffonnier, du diable boiteux, de Mercier, qui sont énumérés d'ailleurs sur la liste qui apparaît au fond de la vignette. Et vous voyez que Diogène apparaît comme le roi de cette petite vignette qui a été dessinée par Henri Monnier. La vignette sert aussi aux journaux de caricature. Je vous ai parlé tout à l'heure de la caricature et du charivari. Je vous ai montré un exemplaire du charivari. Et dans le charivari, en tête de page, il y a toujours une vignette de titre. Cette vignette a d'ailleurs, de façon intéressante, un format oblong. C'est le format qui annonce cette métaphore du panoramique qui sera mise à profit par Walter Benjamin. Et j'ai choisi le dessin préparatoire à l'une de ces vignettes de tête du charivari qui fait partie de la collection de dessins de Granville du Musée des Beaux-Arts de Nancy, parce qu'il me paraissait intéressant de faire apparaître la présence groupée, une sorte de portrait de groupe caricatural de toute l'équipe de rédaction, de toute l'écurie de Philippon, autour de Philippon qui joue de la grosse caisse. Et du côté gauche, vous voyez les dessinateurs et du côté droit, les hommes de plume. Et donc, c'est l'équipe de rédaction qui est réunie. Dans ces journaux, Daumier va poursuivre la thématique des cris de Paris par série. On en a vu un exemple tout à l'heure dans le cours précédent. Cette série, Les Bohémiens de Paris, où l'on trouve aussi la figure du ramasseur des bouts de cigares. Et Daumier revient à cette thématique, on l'a déjà dit aussi dans le cours précédemment, quand il a été conduit à se détourner de la caricature politique après 1835 pour se réorienter davantage vers la caricature de mœurs. Toute la trajectoire de la caricature chez Daumier, comme chez ses contemporains, est associée au destin de l'image politique. Et donc il y a une double reconversion, soit vers la caricature de mœurs, soit vers l'illustration du livre, soit même l'édition pour enfants qui se développe à cette époque. En tout cas, Daumier va multiplier les séries dans le charivari, et l'une des grandes séries importantes pour notre thématique, c'est celle des Bohémiens de Paris. Une autre série dont je voulais vous parler, qui est importante, c'est les Robert Macaire. C'est une série intéressante parce qu'elle est étroitement politique, bien que ça se passe à une époque où on ne peut plus faire de dessin politique. Il s'agit véritablement d'une critique très forte de ce que Daumier appelle les industriels qui sont pour lui des voleurs, des spéculateurs, des dupeurs, tireurs et blagueurs, et qu'il présente en faisant référence à l'univers du saltimbanque, du montreur d'images, tout en faisant apparaître l'émergence de la publicité sur les murs de la ville, la multiplication des affiches. L'affiche publicitaire va apparaître et l'annonce publicitaire, vous le savez, est introduite par Girardin en 1836. Et l'affiche, grâce aux agrandissements des lithographies, va devenir l'affiche de librairie et va se multiplier à l'intérieur des librairies. Cette thématique du mur d'affiche, on la retrouve dans cette planche de la série de Robert Macaire, notaire. Ô sublime Macaire, toi, notaire de toute la banque, des banquistes, créateur de bénéfices chippés, de frimes de toutes couleurs et de toute grandeur, tu es calomnié, tu passes pour un paltoquet, ingratitude de la société et commandite. Vous voyez ce jeu de mots banque, banquiste, qui permet de passer, de faire une alliance de contraires à nouveau et de passer de l'univers du banquier, du ventru, à l'univers du saltimbanque. Et ce jeu se produit très fréquemment dans l'œuvre de Daumier. Et bien sûr, Daumier va tirer de cette thématique du Robert Macaire une physiologie qu'il illustre, où l'on retrouve la posture de Robert Macaire, qui est un personnage inspiré de l'univers du théâtre et d'une pièce de théâtre, L'Auberge des Adrets, qui avait été jouée par Frédéric Lemaître, où l'on trouve un dialogue entre Robert Macaire, le personnage principal, et son acolyte Bertrand, qui lui donne la répartie, et qui sont donc en quelque sorte les personnages reparaissants de l'ensemble de la série. La série va donner lieu à un album et ensuite à un livre, et c'est véritablement une façon presque balzacienne de traiter le personnage comme quelqu'un qui reparaît d'une planche à l'autre. D'un autre côté, c'est aussi une façon de faire apparaître la lithographie telle qu'elle est présentée dans le journal satirique comme un lieu scénique où la légende est là pour permettre aux personnages de dialoguer. Il y a souvent des tirets qui introduisent les dialogues des personnages. Et alors, Daumier, devenant lui-même physiologiste, va multiplier les petites vignettes. Et ces petites vignettes à thème de chiffonnier, on les retrouve un petit peu partout. D'abord au coin des pages du Charivari, parsemées comme ça, avec de nombreux réemplois, et aussi à l'intérieur des physiologies. J'ai donné cet exemple-ci. Vous voyez que ce thème de la vignette associé à la thématique du recyclage, de la multiplication des images, est à mettre en évidence. Une fois que la physiologie s'est terminée, c'est une vogue qui a été assez périssable, qui a duré 2 ans, 1841-42, avec d'un côté l'éditeur Aubert qui dominait l'ensemble, et puis d'un autre côté un éditeur beaucoup plus politisé, qui est Desloges. On va passer dans une autre catégorie de livres qui a le même format, qui, comme les physiologies, joue un petit peu avec les supports populaires. Petit format, très léger, assez bon marché. Ce sont les almanachs comiques. Et en effet, les physiologies se rattachent aussi à la tradition de ces petits objets du quotidien qui sont les almanachs. Daumier va participer à ces almanachs comiques. Par exemple, il illustre celui-ci pour Panière en 1846. Panière est un éditeur qui a été également député sous la Seconde République et que Daumier a représenté dans la série Représentant représenté, et qui est vraiment quelqu'un qui est lui aussi assez... qui a été vraiment du côté des Républicains dans la Seconde République. Un imprimeur assez engagé. J'ai pris l'exemple de cette vignette que vous venez de voir pour vous montrer toute l'histoire de son recyclage. Alors, elle a paru d'abord dans le Figaro en 1839, puis en 1843 dans la caricature. On la retrouve à plusieurs reprises dans le Charivari en 1844, puis dans l'almanach comique de Panière en 1846, et enfin dans la caricature Programme illustré des théâtres de 1850. qui est vraiment un journal à soi tout seul et très différent du journal La Caricature. Et cette mode des almanachs, ma reproduction est très très mauvaise, je m'en excuse, des almanachs comiques va se poursuivre assez longtemps dans le siècle, donnant lieu toujours à ces collections, à ces pluies d'images qui affluent périodiquement. Évidemment, c'est un moment très précis de l'année. Et vous voyez ici une affiche d'almanach qui évoque cela, en 1875. Alors, la littérature panoramique, je reprends évidemment ici le terme de Walter Benjamin, littérature panoramique, on l'appelait autrefois littérature physiologique d'ailleurs. C'est toute cette littérature qui est centrée sur la représentation de ce qui s'appelle les types et qui en fait reprend la tradition des cris de la ville et des séries d'estampes, tradition qui parfois donnait lieu à des images dans lesquelles on retrouvait l'ensemble des personnages groupés en une seule planche, sur un format qu'on appelle une macédoine. C'est ce que vous voyez ici, avec cette macédoine d'ombre chinoise, de crieur de rue, dans l'imagerie d'Épinal, où vous retrouvez la figure du chiffonnier, le quatrième en haut de la première ligne. Chacun des personnages est d'ailleurs identifié dans la légende et j'avais noté leur désignation. Le rémouleur, le marchand de poissons, le marchand d'abigalons, le chiffonnier, le porteur d'eau, le marchand de gâteaux de Nanterre, le crieur de nouvelles qui tient des journaux, la marchande de melons, le marchand d'artichauts, les asperges, le marchand de coco à la fraîche, bouquetière, marchand de pommes de terre, chanteur des rues, marchand de robinets, laquais, modiste, portière, facteur, aveugle, ramoneur, marchand de peau de lapin. Voilà la liste des personnages qui sont représentés sur ces trois bandes d'images. C'est comme ça qu'on désigne, on parle de bandes de sujets dans ces macédoines. Et donc, les livres qui vont être publiés pour les classes moyennes et même les classes aisées, ces beaux livres illustrés vont reprendre à leur profit cette tradition qui est apparue dès le 18e, enfin qui remonte plus haut d'ailleurs, mais qui s'était beaucoup développée au 18e siècle et qui avait été reprise également dans l'imagerie populaire, cette tradition des cris de la ville et des cris de Paris notamment. Et alors j'ai remis, bien que vous l'ayez déjà entendu la semaine dernière, la citation célèbre du Baudelaire de Walter Benjamin. J'ai repris la traduction de l'édition que j'ai. Quand l'écrivain s'était rendu au marché, il regardait autour de lui comme dans un panorama. Et alors on énumère tous ces titres. Vous avez déjà vu le livre des 101. Vous voyez ici l'affiche pour la grande ville. Je vais vous parler des Français peints par eux-mêmes et du diable à Paris. Ces livres, nous dit Benjamin, sont faits d'une série d'esquisses dont le revêtement anecdotique correspond aux figures plastiques situées au premier plan des panoramas, tandis que la richesse de leur information joue, pour ainsi dire, le rôle de la vaste perspective qui se déploie à l'arrière-plan. Alors en fait, ces figures, elles sont isolées en silhouette et le rapprochement avec l'anecdote est intéressant parce que les anas sont un genre qui va être repris dans l'écriture des physiologies où les textes des journalistes consistent essentiellement à proposer des classifications, une sorte de sémiologie des types, mais à les agencer avec une succession de petites anecdotes et si possible de petits faits vrais. Et vous voyez cet afflux de personnages. Alors évidemment, tout cela est lié à l'idée de la foule de Paris. Et vous pouvez remarquer aussi quelque chose sur quoi je reviendrai, c'est que le personnage principal, ce peintre qui en fait est devant un tableau sur lequel il y a du texte, ce peintre écrivain, c'est un diablotin. Et alors, voilà, donc c'est une affiche qui se trouve au musée de la publicité que je vous ai montrée ici. Cette veine de la littérature physiologique a été extrêmement importante pour notamment l'édition illustrée de Balzac. Balzac s'en est beaucoup inspiré. Il a choisi lui-même la liste de ses illustrateurs et surtout dans le format du livre qu'il a voulu pour la Comédie humaine, où il réunit l'ensemble de ses textes qui, pour certains, avaient précédemment été publiés ou essayés, préécrits dans la presse. Donc, il groupe tout cela en un seul immense livre et il adopte exactement la mise en page de ces personnages qu'on retrouve dans Les Français peints par eux-mêmes. Je vous ai montré un exemple d'un personnage de Balzac dans La maison du chat qui pelote. Cette évocation de littérature panoramique, il me semble que Benjamin l'avait pensée non seulement par référence aux panoramas eux-mêmes, les panoramas étaient devenus rares, et même si à Berlin il avait pu voir un panorama, il y avait ce livre dépliant qui était le panorama de l'illustration, où l'on retrouvait justement ces vignettes, en quelque sorte, de la foule devant les monuments de Paris. C'est un livre qui se déploie sur plus d'un mètre de long, qui a été publié en 1846 en reprenant une série de planches de l'illustration. Alors, cette formule d'édition va jouer continuellement par référence d'une édition à une autre. Et par exemple, les scènes de la vie privée et publique des animaux, vous le comprenez bien, le titre le dit, sont un jeu avec la comédie humaine de Balzac, mais aussi un jeu avec l'art de Granville, qui est le dessinateur des Métamorphoses du jour. Et vous retrouvez ici dans l'affiche le motif de l'affichage et du peintre afficheur, du peintre en lettres. Cette affiche que je viens de vous montrer jouait surtout avec les Français peints par eux-mêmes et avec l'affiche célèbre de Gavarni pour les Français et les Anglais peints par eux-mêmes, où il reprenait ce thème de l'afficheur qui était en général utilisé dans la tradition comme frontispice pour les cris de la ville au XVIIIe siècle. Donc on utilise cette représentation de l'afficheur pour montrer l'affichage du titre et en frontispice du livre ou en couverture des livraisons. Et cette image devient l'image emblématique du livre puisqu'elle est agrandie sous la forme d'une affiche. L'affiche de librairie va permettre vraiment de lancer la publicité du livre. Le livre paraît alors selon une modalité qui est intermédiaire entre la presse et le livre, selon la forme des livraisons qui sont hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Et il s'agit donc d'expliquer où on vend les livraisons. Donc c'est la fonction de ces affiches qui sont collées à l'intérieur des carreaux des librairies où l'on peut acheter ces livraisons. Et vous voyez ici une autre forme d'affiche, ou j'appellerais ça plutôt l'affiche spécimen, puisqu'on a collé au centre de l'image une des planches illustrant le livre. Donc c'est presque une affiche prospectus, en quelque sorte. Les Français peints par eux-mêmes ont fait partie d'un ensemble vaste d'ouvrages, les Anglais peints par eux-mêmes, les Belges peints par eux-mêmes, qui a été ensuite décliné et repris en russe, en espagnol et même en mexicain, et qui donnera lieu à toutes sortes de variantes d'ouvrages publiés à travers l'Europe. L'éditeur était Kurmer, qui a été le principal éditeur de livres illustrés romantiques. Et il y a 8 volumes, plus un volume supplémentaire qui s'appelle Le Prisme, qui est un volume plein de croquis. Vous voyez ici une vignette qui sert de tête de page à une table des matières où l'on voit une sorte de corbeille à papier où viennent se réunir les petits personnages réunis par l'éditeur et par l'illustrateur. Alors, dans les Français pas par eux-mêmes, les rôles se répartissent. Les illustrateurs sont nombreux, mais Gavarni est vraiment l'illustrateur des jeunes femmes, de la femme du monde, de la grisette, de la lorette. Et je vous ai montré cette planche très caractéristique de son talent, où il donne une sorte de mouvement, de courant d'air à la robe de la jeune femme, qui est présentée suivant la formule caractéristique de ce genre, donc en silhouette sur le fond blanc de la page, avec une légère ombre portée qui permet de donner une impression spatiale. Les planches étaient parfois rehaussées et aquarellées, comme les celles-ci. Elles étaient vendues à ce moment-là un peu plus chères, mais elles sont plus recherchées en noir actuellement. Enfin, la qualité des coloriages est très variable. En préface aux Français peints par eux-mêmes, Jeannin écrit ceci. « Ce que nos devanciers n'ont pas fait pour nous, nous le ferons pour nos petits-neveux. » Nous nous montrerons à eux non seulement peints en buste, mais des pieds à la tête et aussi ridicules que nous pourrons nous faire. Dans cette lanterne magique où nous nous passons en revue les uns les autres, rien ne sera oublié, pas même d'allumer la lanterne. En un mot, rien ne manquera à cette œuvre complète qui a pour objet l'étude des mœurs contemporaines. Donc la métaphore de la lanterne, devenue ici lanterne magique, est mise en évidence pour montrer cette volonté de présenter les types des mœurs contemporaines de la tête aux pieds, aussi ridicules qu'ils le sont. Et évidemment, c'est une référence à la fable de Florian, le singe qui a oublié d'allumer sa lanterne. Je vous ai présenté ici toute une série de ces types. Charlet est celui qui montre ici le petit écolier, qui fait un pied de nez. C'est lui qui fait les types les plus populaires et les enfants. À côté, vous avez l'homme de lettres de Granville, qui se couronne lui-même. Ensuite, vous avez Jean Rond, qui est également un peintre, et ça fait partie du volume de la province. Ensuite, la double page, c'est à nouveau Granville avec le canardier, ce marchand des rues, qui vend des journaux. Un format très très populaire du journal illustré de bois, et Nerval a écrit lui aussi sur le canardier. Ensuite vous avez le bourreau de Poquet, dont on ne voit pas la tête mais on voit son habit noir. C'est une sorte d'hommage aussi à la modernité en habit noir pour les habits masculins que cet ouvrage. Et enfin vous avez la table des matières du volume 3 avec ces petites vignettes en images qui évoquent la table des matières. La physiognomonie de Lavater a été très importante pour l'inspiration de ces illustrateurs. Et Courbet, dans Un enterrement à Ornans, a dressé une sorte de frise panoramique de tous les habitants de son village d'Ornans, suivant une modalité qui est très proche de la présentation des Français peints par eux-mêmes et qui a été rapprochée de la formule de Baudelaire « Nous portons tous le deuil de quelque enterrement ». Mais Courbet a aussi présenté, d'une façon qui annonce complètement la peinture de Manet, un portrait de Max Buchon en pied. Je voulais poursuivre en vous montrant justement le chiffonnier de Traviès, ce type évoqué par Berthaud, qui est penché sur le tas qu'il est en train de fouiller et qui scrute de son regard, et son regard est prolongé par son croc en quelque sorte, mais on ne voit pas son visage. C'est un homme sans visage qui joue dans la pénombre et dans le demi-jour. Et le livre par excellence dont le frontispice a été dessiné par Gavarni de cette littérature, c'est Le Diable à Paris. Le frontispice représente le héros de ce livre, un petit diablotin qui s'appelle Flamèche, mais ici le diablotin est devenu une sorte de géant qui foule aux pieds le plan de Paris, qui est transformé en chiffonnier, tandis qu'à l'arrière-plan, vous voyez les moulins de Montmartre, mais qui peuvent être aussi les moulins à papier, et vous voyez que s'esquisse ici tout un cycle à nouveau du papier, puisqu'il porte dans son dos une corbeille à papier en guise de hotte, et que le tiroir du diable va devenir une des doubles pages de ce livre. Il est également un montreur de lanterne magique, et on peut noter que sa lanterne évoque aussi une lanterne magique, c'est une image à double valeur. Donc ce personnage un peu méphistophélique qui évoque ce Baudelaire amoureux d'estampes et de cartes aussi. On retrouve la présentation des... Gavarni faisait ici référence à sa propre œuvre et notamment à une planche dépliante qu'il avait publiée, La procession du diable, où il y avait toutes sortes de petits diablotins sous la forme d'une sorte de Macédoine. J'ai parlé de cela tout à l'heure. Et dans ce livre, on trouvera le tiroir du diable avec des illustrations de Bertal en croquis, parmi lesquels on retrouve tous les petits métiers de Paris et notamment le chiffonnier et la chiffonnière. Toujours dans ce même registre d'ouvrages, Gavarni va publier chez Hetzel les œuvres choisies. Et là, j'ai choisi de vous montrer le frontispice et la vignette de titre de ce livre, puisqu'il s'agit ici de deux identités artistiques. D'un côté, le dandy, le peintre qui est devant son tableau, et de l'autre, le marionnettiste. Alors, le frontispice fait évidemment référence à la vignette de titre du journal L'Artiste, dont il est une sorte de retournement. Et la vignette de titre nous entraîne du côté des marionnettes mécanisées. Et... Alors, je crois que je vais passer assez rapidement sur pour laisser place un petit peu à la discussion. Sur la suite de mon exposé, je voulais simplement rappeler que Baudelaire, quand il a entrepris de présenter son ouvrage sur la caricature, livre qu'il n'a jamais vraiment achevé et qu'il a publié sous la forme de 3 articles, il était face à un autre livre qu'on évoque rarement, qui est Le musée de la caricature de Gem, publié en 1836, et qui était une sorte de vaste livre d'images consacré à l'histoire de la caricature depuis les origines, assorti de commentaires, un peu à la manière de cette littérature panoramique, de commentaires de journalistes, et où l'on retrouve, j'en ai pris 2 pages ici, bien sûr, l'écrit de Paris évoqué. Et donc, Granville va, dans son... Pardon, excusez-moi, je voudrais lire quelque chose. Quand Daumier donc a entrepris cet ouvrage, il écrit 3 articles et il parle de Daumier en disant « Daumier a éparpillé son talent en 1000 endroits différents ». Je pense que cette idée de l'éparpillement du talent en 1000 endroits différents convenait un petit peu à Baudelaire, qui lui-même, bien qu'il ait passé quasiment une 20aine d'années à réfléchir à ce projet d'un livre qui était un livre à venir, il y a pensé à partir de 1846, il y était encore à y réfléchir en 1866. Et il a écrit plusieurs articles successivement, un premier dans Le Présent en 1857, de l'essence du rire et généralement du comique dans les arts plastiques, dans Le Portefeuille de 1855, et les autres, quelques caricaturistes français et quelques caricaturistes étrangers, sont repris dans l'Artiste en 1858. Et c'est simplement à titre posthume que ces trois articles vont être réunis, donnant une sorte de forme de livre à cet ensemble de textes qui sont très importants pour la réflexion, évidemment, de Baudelaire sur la caricature, pour sa réflexion, peut-être, je crois, sur le poème en prose, et aussi pour l'histoire de la caricature, tout simplement, puisque son projet va entrer assez rapidement en concurrence avec celui de Champfleury, qui, lui, va aboutir à partir de 1865. Et puis, d'autre part, la traduction du livre de Thomas Wright, A History of Caricature and Grotesque in Literature and Art, qui est traduit en 1866. Donc Baudelaire va réfléchir à la notion de comique absolu qu'il oppose à la notion de comique significatif, c'est-à-dire circonstanciel. Et ensuite, il développe en parallèle deux articles sur la caricature. Conclure. Oui. Oui. Donc je vais... Voilà. Oui, alors je vais essayer de conclure en effet là-dessus pour dire simplement que dans ce texte, on voit une critique très personnelle de Baudelaire qui exprime ses haines et ses goûts. Il a la passion de Daumier et il est Charlet. Et nous dit-il, et c'est ça qui me servira peut-être de conclusion, c'est un homme très artificiel qui s'est mis à imiter les idées du temps. Il a décalqué l'opinion, il a découpé son intelligence sur la mode. Le public était vraiment son patron. Et je crois que cette formule, finalement, puisque j'abrège et que je vais terminer peut-être là-dessus, l'idée que... il y a l'émergence d'un public, et Baudelaire se pose constamment la question du public, notamment quand il réfléchit sur la photographie. Il déteste les artistes qui travaillent, dit-il, de chic, qui reproduisent toujours les mêmes mouvements, les mêmes gestes, qui sont dans la répétition mécanique. Il déteste aussi ces artistes qui ont le public pour patron, et qui donc sont dans un système de reproductibilité blâmable. En revanche, il me semble qu'avec cette réflexion autour du chiffonnier, il y a toute une réflexion qui est conduite, que je n'ai pas eu le temps vraiment de développer, autour du regard scrutateur du chiffonnier, du mur d'image, de l'agencement d'image, de la composition comme rassemblement de fragments, et une réflexion finalement sur le tissu du journal illustré qui est cette réunion de textes et d'images.
Comme on le voit, c'est un très grand sujet. Et vous avez évoqué, effleuré et Daumier et Gavarni et Traviès qui ont tous éminemment participé à ce jeu. L'une des questions qui me reste, mais c'est aussi à ça que j'essaierai de consacrer le cours, c'est pourquoi est-ce que le chiffonnier s'est tellement détaché d'autres petits métiers ? Parce que les autres petits métiers n'ont pas du tout la même importance symbolique ou allégorique. Vous alliez parler de l'allégorie. Pourquoi est-ce que le chiffonnier se prête beaucoup plus à l'allégorisation, à la symbolisation, que tous les autres métiers décrits de Paris qui figurent dans ces diverses planches où on les a tous ? Je ne sais pas encore, mais c'est un peu pour moi la question, C'est très fortement celle-là. Hein, parce que vous le voyez dans tous ces panoramas, dans tous ces tableaux de Krikari, ben, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Mais seul le chiffonnier prend cette suréminence allégorique.
Oui, et cette présence allégorique, oui. Moi je pense qu'effectivement c'est parce que le chiffonnier devient...
Parlez dans le micro.
Pardon. Le chiffonnier n'est pas seulement un des types, c'est pas un type comme les autres. Pas plus que le flâneur, c'est une sorte de contrepoint du flâneur pour... c'est ce qu'explique d'ailleurs Walter Benjamin dans son analyse. Et je pense que le Diable à Paris dont j'ai parlé a joué beaucoup pour mettre en évidence l'importance emblématique et allégorique du chiffonnier. Je crois qu'il y a plusieurs dimensions de cette allégorisation. J'ai parlé simplement de la première d'entre elles, celle de l'univers du papier, de ce monde du papier qui est en train de se mettre en place, qui joue avec des images qui sont recyclées. Les lithographies, on les efface, on efface les pierres pour rééditer, réutiliser la même pierre, etc. Donc, cette économie-là, elle est représentée par le personnage du chiffonnier. Et puis, d'autre part, il me semble que dans sa façon de regarder au sol, sa posture de personnage courbé, qui tient son croc, qui va fouiller dans ce tas au coin des rues, il y a effectivement une sorte d'allégorie de la prise de position de certains écrivains, mais aussi de certains artistes, au premier chef Daumier, qui a vraiment utilisé beaucoup la figure du chiffonnier, mais aussi Manet, dont je n'ai pas pu parler, mais pour lequel le chiffonnier a été un personnage important. Et la troisième raison, me semble-t-il, c'est que... donc je crois qu'il y a une sorte de posture qu'on peut même rapprocher de la posture des amateurs. Daumier travaille toujours à partir de formes qu'il a mémorisées et qu'il reprend, donc de postures corporelles qu'il va reproduire dans des contextes tout à fait différents. Et de façon assez intéressante, on peut voir que la posture courbée du chiffonnier, c'est la posture qu'il va reprendre pour l'amateur.
Oui.
Et notamment pour l'amateur devant l'amateur d'estampes, oui, dans certaines versions.
Mais même l'homme de science, puisque Magendie se réclamait de la méthode du chiffonnier.
Oui.
Donc ça affecte toutes les pratiques du milieu du siècle, autour de 1850. C'est une sorte de clé universelle de modèle de. C'est aussi le collectionneur, vous avez dit l'amateur.
C'est le collectionneur.
Mais il tient du collectionneur.
Voilà.
Il se rapproche du collectionneur.
Tout à fait, c'est aussi le collectionneur, bien sûr. Ça, c'est très évident dans des reprises physiologiques de la fin du siècle, sur lesquelles j'avais commencé à regarder aussi. Oui.
Et alors, comme on le remarquait la semaine passée, avec tout cela, il n'y a pas de physiologie du chiffonnier, ce qui est une sorte de.
De paradoxe.
De paradoxe, ce qui ne s'explique que. Par le fait qu'il soit partout. Quoi.
Oui. Il y a quand même le chapitre sur le chiffonnier, sur les chiffonniers de Berthaud.
Oui,
dans les Français, pas par eux-mêmes.
Il n'y a pas dans la série des physiologies.
Non, pas dans les physiologies.
Non, il y a un chapitre sur le chiffonnier dans tous ces livres. Il y a toujours un article sur le chiffonnier. Ça, toujours.
Oui. Et dans les Français pas par eux-mêmes, c'est intéressant parce que c'est vraiment dans le volume, ça aussi c'est une réponse peut-être à votre question, c'est dans le volume 3 que ça se produit, c'est le volume qui est introduit par le journaliste, qui se termine par le commissaire de police, mais où il y a le flâneur, tous les personnages emblématiques sont recensés dans ce volume-là. Donc il y a d'un côté les petits métiers, mais le chiffonnier et le flâneur.
Oui.
En parallèle, à côté de l'homme de lettres, qui est dans le même volume, et le journaliste.
Donc il n'est plus dans les petits métiers.
Non, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans ce volume-là, et il y a un assemblage qui est intéressant par les rapprochements qu'il introduit, et qui est, à mon avis, signifiant, significatif.
Et c'est là qu'il y a les images de Traviès.
C'est le volume qu'il a apporté, d'ailleurs.
Ouais. De Traviès, qui avait déjà été publié avant dans l'illustration, un certain nombre d'années auparavant. Donc c'est... qui ne sont pas des images originales pour le chiffonnier.
Dans les Français pas par eux, même ce sont des images originales.
Non, elles ont été publiées dans l'illustration plutôt.
Non, parce que l'illustration commence en 1843. Peut-être pour le tableau de Paris de Texier.
Le tableau de Paris, pardon.
C'est dans le tableau de Paris de Texier que ce sont des réemplois.
Ce sont reprises. Ouais. Ce sont des réemplois.
Ouais. Non, dans les Français pas par eux-mêmes, tout est. Au contraire, c'est un des grands livres illustrés de la période. Et c'est Kurmer, le plus grand éditeur, qui a commandé les œuvres. On connaît les dessins, etc.
Ouais. Bien, écoutez, on va vous remercier, mais il faudra que vous reveniez pour la suite.